The narrow road to life eternal.
Le chemin étroit vers la vie éternelle, témoignage de Lydia Dubé, raconté par Erlo Stegen. Première partie. Dieu seul savait ce qu'il avait prévu quand il a envoyé le réveil à un petit groupe de chrétiens qui priaient à la fin de 1966. Ils étaient désespérés de recevoir Dieu et qu'il puisse travailler au milieu d'eux et sauver les païens. À leur grande surprise, Dieu commença avec eux. Alors qu'ils se repentirent et qu'ils ont mis leur vie en règle avec Dieu et avec leur proche, le Seigneur a envoyé le réveil tout d'abord à eux et après aux païens. Ils n'étaient qu'un petit groupe de coéquipiers à l'époque. Aujourd'hui, ils sont plus de 150 à Kwasi Zabantu qui ont entendu l'appel du Seigneur et fidèlement l'ont servi toutes ces années, le servent toutes ces années. Une de ses coéquipières était une jeune fille, Lydia Dubé, que le Seigneur a utilisée d'une façon grandiose. Sa vie a impacté beaucoup d'autres vies, surtout à travers l'expérience qu'elle a eue en 1973. Il y a maintenant 47 ans que Lydia Dubé est passée par cette expérience, comme il est expliqué dans ce livret. Mais jusqu'à ce jour, son témoignage continue de nous challenger, de nous inspirer et de nous mettre en garde. Et aussi d'apporter la repentance dans beaucoup, beaucoup de vies. Le message de Matthieu 7, verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Ce texte a une nouvelle profondeur, alors que Lydia raconte son expérience merveilleuse. Quelle ferveur, quelle détermination, quelle révérence! Est-ce que cela ne crée pas dans la profondeur du cœur humain de compter tout comme une perte pour la gloire et la connaissance de Jésus-Christ, pour qui j'ai souffert la perte de toutes choses, et je les compte comme rien pour que je puisse gagner Christ et être trouvé en lui. Philippiens 3, verset 8. Lydia elle-même continue de servir le Seigneur. Son ministère parmi les jeunes gens de notre pays, les perdus, les méprisés, les drogués et l'Église continue de grandir jour après jour. Elle a souffert beaucoup à cause de son choix de servir Dieu et sa vérité. Quoi qu'il en soit, que ce soit populaire ou non, ou pas, c'est notre prière que Dieu l'épargne encore pour beaucoup, beaucoup d'années. Car beaucoup peuvent rendre témoignage que leur vie ne serait jamais la même si ce n'avait pas été pour son influence et son témoignage. Plus de 53 ans ont passé depuis le début du réveil que Dieu a envoyé dans sa grâce à Mapumulo à la fin de 1966. Par la grâce de Dieu, des rivières d'eau vive continuent de couler plus en plus profondes et plus en plus fortes. Il y a un chant Zoulou qui dit que le travail n'est pas le mien, mais c'est le tien, le mien, le nôtre et celui du Seigneur. C'est la vérité par rapport au travail à Kwasi Zabantu. Tant que le travail continue d'être le travail de Dieu, la génération suivante expérimentera les merveilleuses choses de la main de Dieu. Ce qui suit est le témoignage de Lydia raconté par le pasteur Erlo Stegen. Des coéquipiers qui étaient présents ont gardé des notes précises de ce qui s'est passé et ce qui a été raconté par Lydia. La maladie de Lydia. En 1973, six ans après le réveil, une jeune coéquipière qui s'appelle Lydia Dubé, de la tribu des Zoulous, est devenue très malade. Elle a été placée dans un petit hôpital à côté de la mission Kwasi Zabantu, en Afrique du Sud, où beaucoup de personnes priaient pour elle. Toutes nos prières, malheureusement, n'ont pas apparu être une aide. Son état est devenu pire. Quand j'ai réalisé que ça ne pouvait pas continuer, j'ai parlé à ses parents et je leur ai conseillé de l'emmener vers les docteurs, puisque nos prières n'avaient pas aidé. Plus tard, nous avons réalisé que dans ce cas, nous étions en accord avec la parole de Dieu qui dit que Dieu ne répond pas forcément en accord avec nos désirs, nos requêtes ou notre pensée. En donnant conseil aux parents de Lydia de consulter les docteurs, je voudrais souligner que nous ne sommes pas contre l'aide médicale, plutôt que nous remercions Dieu qui nous donne les docteurs et qui leur donne la capacité et la connaissance pour aider les gens dans leur souffrance physique. Les parents de Lydia m'ont demandé de les accompagner. Nous avons emmené Lydia immédiatement vers un spécialiste qui l'a examinée et a diagnostiqué une dysfonction des reins. Mais les médicaments qu'ils ont prescrits n'ont pas fait l'effet. Un deuxième diagnostic a révélé une maladie sévère, bilharzia, qui se répand qui est assez commune en Afrique du Sud et qui demande une hospitalisation immédiate. Après que son état se soit amélioré pendant un peu de temps, il est devenu ensuite pire. Nous avons essayé d'autres autorités médicales spécialisées. Ils ont ensuite diagnostiqué une dysfonction du foie très sévère et ont donné des médicaments qui, de nouveau, n'ont pas changé son état. Nous sommes allés d'un docteur à l'autre et ne pouvions pas comprendre ce qui se passait. Seulement après, quand Dieu a pu accomplir son but, nous avons réalisé pourquoi Lydia avait souffert tant et pourquoi rien n'avait aidé. Malheureusement, nous avons une vision très courte des choses et nous sommes souvent aveugles pour comprendre et discerner la volonté de Dieu et les choses qui nous arrivent. Souvent, il semble que les circonstances sont sans aide, que rien ne va dans le bon sens, qu'il y a tellement de douleurs et que ce n'est pas juste. Mais même dans ces temps de souffrance et même de désespoir, nous ne pouvons pas forcément voir la main du grand Dieu qui sait et qui prévoit tout. Malgré que nous ayons suivi les conseils des docteurs et donné les médicaments qui avaient été prescrits, nous avons réalisé que son état ne devenait pas mieux, mais qu'il s'empirait. Nous l'avons ensuite emmenée à l'hôpital et nous avons réalisé qu'elle allait bientôt mourir. Les spécialistes n'ont pas essayé de cacher sa véritable condition. Et quand Lydia, on lui a demandé quel hôpital elle préférait aller, elle a montré vers Kwasi Zabantou, disant qu'elle voudrait, elle préférerait mourir parmi ses proches si le Seigneur l'a rappelé à elle. À lui, pardon. Et comme les chambres étaient souvent très pleines, nous avons décidé de mettre Lydia dans une petite maison à côté, là où nous nous assemblions souvent avec les coéquipiers pour prier et adorer le Seigneur. Peu de temps après, nous avons réalisé que tout ce qui se passait avec Lydia n'était pas un accident, mais que par elle, Dieu avait planifié d'écrire un livre précieux de ses révélations pour nous. Dans cette petite maison, aux côtés de Lydia, certains de ses proches et des coéquipiers de la mission ont essayé de lui donner du réconfort dans toutes ses souffrances tortueuses avant sa mort. Pendant plusieurs semaines, elle ne pouvait pas manger, elle souffrait des douleurs terribles et elle buvait très peu. Ce qui était étrange pour nous, c'est que malgré la souffrance qui augmentait de pire en pire dans son corps, sa vie spirituelle et son contact avec Dieu devenaient de plus en plus évidents. C'était une grande révélation de Dieu pour moi, parce que par mon expérience, j'avais vu que lorsque la condition des patients devenait de pire en pire, souvent ils devenaient agités et difficiles à gérer. Cela, bien sûr, amène de la joie au diable et de la tristesse à Dieu. Dans le cas de Lydia, il en était exactement le contraire. Ce n'est pas facile. Quand nous voyons son visage qui passait par une douleur très, très évidente et difficile, nous disions l'un à l'autre, maintenant il faut faire très attention à ce qu'elle va dire. Maintenant elle va nous enseigner des profondeurs et des révélations, des vérités spirituelles que le Seigneur lui a montré. Ceux qui étaient assis à côté de son lit ont pris des notes de ce qu'elle disait. Souvent, pendant la jour et la nuit, comme si elle avait oublié, elle répétait « Oh oui, le chemin vers le ciel, ce n'est pas facile. » De temps en temps, elle murmurait ces mots de ce qu'elle voyait et nous, presque sans respirer, nous écoutions sans faire de bruit. Et il disait, « Dieu me montre le chemin de la foi, le chemin de Dieu. » Mes amis, cette histoire inhabituelle est l'histoire d'une jeune fille noire à qui, juste avant sa mort, le Seigneur a révélé deux chemins et qui, en accord avec sa volonté, a passé la barrière de la mort et a été ramené à la vie. Ce n'est pas mon but de juste vous montrer ce miracle de Dieu qui s'est passé parmi nous, même si c'était un vrai miracle et que je souhaite le souligner pour moi-même et pour chacun d'entre nous ici. C'était quelque chose de merveilleux qui montre comment un homme spirituellement mort peut ressusciter en Christ, sortir du terrible fossé du péché et de Satan. Je ne vais pas essayer de donner des détails de sa mort, la mort de Lydia, même si je réalise qu'il y aura peut-être des questions de votre côté. Comment est-elle morte? Est-ce que c'était une vraie mort? Peut-être c'était juste un rêve. Est-ce qu'il y avait un docteur qui était présent qui pouvait confirmer sa mort? Y a-t-il vraiment une chance de résurrection de nos jours? Je n'ai aucune intention de persuader personne de la réalité de sa mort. Chacun peut avoir sa propre opinion, mais je suis un témoin vivant de ce qui s'est passé et je voudrais partager ce que j'ai vu de mes propres yeux et entendu de mes propres oreilles. Cela dépend ensuite entièrement de vous et c'est votre choix si vous le croyez ou pas. Le chemin large. Ce que nous avons entendu de Lydia dans ces jours terribles et ces jours de douleur avant sa mort m'ont rappelé le psaume 24, versets 3 à 6. Et aussi des commandements qui m'ont rappelé Matthieu 7. Cela aussi m'a rappelé les portions du book de John Bunyan, Le chemin du chrétien vers la cité céleste. Bien que Lydia n'avait jamais lu ou entendu parler de ce livre, le Seigneur lui a montré deux chemins, le chemin large et le chemin étroit. Il lui a montré ses caractéristiques par des images tellement claires que ce qu'elle a vu pourrait nous aider pour nos propres vies à voir à travers les yeux de Dieu. Pour voir notre marche terrestre à la lumière de l'éternité et pour déterminer sur quelle route, sur quel chemin nous marchons réellement. Le chemin large que la fille a vu était si large et spacieux que des groupes entiers de personnes pouvaient marcher dessus. Il y avait tellement de place que chacun pouvait marcher avec toutes ses possessions. Le mari et la femme, les enfants, les amis, les proches et plein d'autres pouvaient les accompagner. Il n'était pas difficile de marcher sur ce chemin. C'était facile et plaisant. Toutes les opinions les perceptions humaines et les circonstances étaient acceptées. Quand, par exemple, tu voulais aller à l'église, tu pouvais y aller, ou si tu étais fatigué, tu pouvais rester à la maison. Quand tout d'un coup, tu avais un mal de tête, tu pouvais sortir et aller t'asseoir sur le canapé, lire le journal, écouter la radio ou regarder la télé. Ce qui est habituel dans ces circonstances, c'est que le mot tête disparaisse rapidement. Sur le chemin large, chacun pouvait marcher doucement, regarder autour et faire d'autres choses. Personne n'avait besoin de faire vraiment attention là où il marchait. Quand les gens étaient ensemble, on était libre de sauter, de danser autant que l'on voulait. Sur ce chemin large, on pouvait prier si on voulait. On pouvait lire quelques versets ou des chapitres de la Bible pour sa propre satisfaction et ensuite mettre la Bible de côté et regarder les magazines ou des journaux. C'était un chemin qui allait pour tous les goûts, tous les désirs, toutes les requêtes. Quand on marchait sur ce chemin, tu pouvais rentrer à la maison, t'énerver avec ta femme qui n'avait pas préparé un souper la façon dont tu voulais. Tu t'exprimes ensuite d'une façon avec des mots pleins d'amour et ensuite tu pars de la maison, tu quittes la maison en claquant la porte. La même soirée, avant d'aller au lit, tu te mets à genoux, tu répètes une prière sainte. On fait ça avant de se coucher, n'est-ce pas? Et sans faire attention à ta femme à genoux, tu sautes dans ton lit avec bruit et tu te tournes d'elle. Le lendemain matin, tu es à genoux de nouveau et ensuite tu vas au travail avec de la colère dans ton cœur contre ta femme qui est si stupide. Oui, sur le chemin large, il est possible de garder de l'insulte dans ton cœur, du mauvais, de la colère. Et on peut même maudire ouvertement et accuser. Ce n'est pas nécessaire de pardonner. Tu peux garder ce que tu veux dans ton cœur et continuer avec. Sur ce chemin, il est possible d'offenser ou d'argumenter avec ton voisin en lui donnant une longue histoire ou en lui racontant tout ce que tu penses sur lui. Et avec une conscience en paix, tu retournes à l'église en ne pensant même pas à faire la paix avec ton voisin ou te repentir. Donc le chemin large qui a été montré à Lydia était très large. Les possibilités étaient sans fin. Il y avait tellement qui s'appelaient les enfants de Dieu. Ce serait intéressant de savoir, mon cher ami, quelle est la largeur du chemin sur lequel tu marches, mon cher ami. Lydia a vu un homme qui marchait sur ce chemin, qui avait l'air très heureux et joyeux. Il avait juste bu un verre de vin rouge. Il chantait, dansait, il était d'une très bonne humeur. Quand on lui a demandé où il allait, il a répondu sans hésiter. « Qu'est-ce que tu veux dire où ? Quand tu peux pas voir ? Au ciel, bien sûr. Je suis juste pas si fanatique et borné dans mes opinions que certains autres. » Ensuite, il s'est retourné. Et il a vu un autre homme qui passait par une bataille spirituelle et qui essayait de trouver une autre solution. Et il lui a recommandé, « Dis-moi, quel passage est-ce que tu as pris si sérieusement pour que tu sois si troublé ? Pourquoi est-ce que tu prends tout si profondément dans ton cœur? Vois et crois que tu exagères et tu verras tes peurs te seront presque amusantes. Nous sommes tous faibles et des pécheurs. Dieu nous aime. Et c'est pour cela qu'il est venu dans le monde pour nous pardonner nos péchés. Et alors qu'il réassurait la personne, en lui assurant et en essayant de lui prouver ses vérités, la terre sous ses pieds s'est soudainement ouverte et une grande abysse, et il est tombé avec un cri perçant. Malheur à moi, j'ai perdu toute ma vie entière. Où est-ce que je vais trouver Jésus? Le désespoir et la repentance, on pouvait l'entendre dans ce cri horrible, mais il était trop tard pour faire quelque chose. Son espoir était perdu dans cet abysse et il est entré dans l'éternité. Beaucoup qui marchaient sur ce chemin large pensaient qu'en marchant de cette façon, ils finiraient au ciel. Malgré qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient pendant leur vie, il y en avait beaucoup qui priaient et qui montraient toutes leurs bénédictions. D'autres montraient leur générosité humaine et leur standard moral avec un sens de dignité, comme si ils avançaient tout doucement vers l'avant. À qui tu penses, Père, tout le monde était sur cette route. Des gens de toutes les races et toutes les nationalités. Des gens représentant tous les groupes et tous les rangs. Des docteurs, des juges, des pasteurs, des enseignants, des vendeurs, des voleurs, des philosophes, des théologiens, des pasteurs et des travailleurs. Chacun était satisfait avec lui-même, en pensant que tout dans sa vie allait très bien. Certains, regardant de l'autre côté, voyaient un aperçu de l'autre chemin dans la distance et disaient « Non, 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 ce chemin est bien trop étroit. C'est vraiment dur. C'est cruel. Il y a beaucoup trop de cailloux. C'est beaucoup trop d'efforts de marcher dessus. Pourquoi ne resterions-nous pas sur ce chemin où de toute façon nous allons au même but ?» Près de la masse des gens qui marchaient sur le chemin à large, il y avait un autre groupe de personnes qui ne voulaient pas aller avec tout ce groupe. Ils n'étaient pas d'accord avec certaines choses mondaines qui étaient manifestes dans leur vie. Les gens de ce groupe cherchaient un autre chemin, mais ils ne le trouvaient pas. Passant ici, passant là, ils se perdaient près du chemin étroit, juste à côté. Ils ne voyaient pas le chemin étroit parce qu'ils étaient aveugles spirituellement. Ils ne le voyaient pas parce qu'ils étaient aveugles spirituellement. Et la cause de leur aveuglement n'a pas été révélée par la jeune fille qui était mourante. Voilà comment le chemin large a été révélé à Lydia. Combien différent le chemin étroit était. Il était tellement étroit que seulement deux personnes pouvaient marcher dessus. Seulement deux. Pas plus, pas moins. Les seules deux personnes qui pouvaient marcher étaient celles qui avaient choisi de marcher sur le chemin avec Jésus. Et le Seigneur avait, les personnes plus le Seigneur Jésus. Sur ce chemin, un mari ne pouvait pas marcher à côté de sa femme, ou une femme née après côté de son mari. Les parents ne pouvaient pas marcher à côté de leurs enfants, et les enfants à côté de leurs parents. Chaque personne devait décider de marcher sur ce chemin et s'il voulait, c'était seulement eux et le Seigneur Jésus. Le chemin étroit. Ce chemin était similaire à un petit chemin de montagne très étroit et très raide qui montait vers le pic. Ce n'était pas seulement très très étroit, mais plein de cailloux et d'épines aussi. Il y a beaucoup de montagnes sur cette terre, mais Lydia a dit qu'il n'y en a point aussi haute et inaccessible que la montagne de Dieu. L'ascension est si difficile qu'aucun homme ne peut accéder le sommet en comptant sur sa propre puissance. Cela est seulement possible avec la puissance du Seigneur qui nous supporte et par sa force. Autrement, ce serait impossible. En décrivant cela, Lydia a aussi expliqué le fait qu'aucun homme ne peut penser ou essayer de monter sur cette montagne s'il a un cœur qui est double, en essayant de servir Dieu et en même temps le diable. Ce n'est pas non plus possible pour quelqu'un qui ne prend pas les choses sérieusement, ou qui est frivole, ou qui prend les choses légèrement, qui sert Dieu juste comme une habitude, une loi ou une tradition. Pour de telles personnes, il n'y a aucune chance de monter la montagne de Dieu et d'obtenir ses bénédictions et sa grâce. Le chemin étroit partait du chemin large et commençait avec un petit portail très très étroit par lequel il fallait passer. Ce portail était tellement étroit et sombre qu'une personne qui n'était pas en train de prier ou de payer attention aurait facilement pu la rater. C'est pour cela que parmi tant de gens, il y en avait seulement très peu qui le trouvaient. Comme vous pouvez le voir, il faut vraiment vouloir le chercher avec attention, ce chemin étroit, pour pouvoir le trouver. Toute personne qui est indifférente ou superficielle dans les choses de la foi passera à côté de la porte étroite sans même y faire attention. Seulement ceux qui cherchent vraiment et qui prient et qui sont attentifs seront capables de trouver la porte étroite, d'y passer à travers et de commencer sur le chemin étroit. C'est vraiment difficile d'essayer de décrire comment ce chemin était vraiment étroit. Littéralement, c'est vraiment comme une ficelle fine. Il est seulement possible d'y marcher dessus avec grande, grande attention, un pas après l'autre. Et encore plus important, en marchant dans les pas du Seigneur, dans les empreintes du Seigneur. De chaque côté, il y a une pente très raide et une grande abysse. Il est très difficile de marcher sur ce chemin. Il y a beaucoup de dangers. Quand on regardait vers le sommet, il était possible de voir quelqu'un qui était tout en haut, sur le haut de la montagne. C'était celui qui a été crucifié. Il étendait ses mains vers les pèlerins qui arrivaient. Et gracieusement, il les invitait. Viens, viens à moi, monte. Mais c'était seulement celui qu'il n'avait pas abandonné et qui marchait jusqu'en haut, en combattant sans abandonner, qui pouvait monter la montagne de Dieu et se tenir devant la majesté de Dieu. Mais comme je disais, il était impossible pour toute personne de marcher sur ce chemin étroit, tout seul, seulement avec le Seigneur Jésus. Pas un seul pas sans lui. Sans lui, c'était impossible de faire aucune chose et d'accomplir quoi que ce soit. Tout devait être fait avec lui. Des lions aussi passaient autour sur ce chemin, des lions qui mangeaient seulement la chair humaine. Leur intention était de dévorer autant que de personnes possibles qui passaient sur ce chemin, et la seule façon de les éviter était de rester à très 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 près du Seigneur Jésus et de s'abandonner à lui. Seulement de cette façon, on pouvait éviter les lions et ils ne les dévoreraient pas. Les tuniques avec des taches. Des images étranges sont apparues devant les yeux de Lydia qui était en train de mourir. À un moment, elle a vu deux femmes habillées avec une robe blanche similaire à celles qui sont portées dans les monastères. Sur le chemin étroit, elles ont rencontré le Seigneur qui leur a demandé « Dites-moi, où allez-vous ?» Au ciel, elles ont répondu d'une façon unanime. Jésus tenait un livre dans ses mains et quand il le lut, tous ceux qui étaient sur le chemin étroit pouvaient voir leur état, comment et où ils allaient et vers quelle fin ils allaient. Se tournant vers les femmes, Jésus dit, « Je vois que vous avez lavé vos robes dans mon sang, mais vous ne l'avez pas fait correctement. Regardez ici. Est-ce que vous voyez ces taches sur vos robes ?» À cause de ces taches, les femmes ne pouvaient pas continuer sur le chemin étroit et elles ont dû repartir. La repentance et les relations. Un jeune homme marchait aussi sur le chemin étroit. Jésus lui dit, « Je me rappelle quand je t'ai invité pour la première fois et tu as accepté cette invitation et tu m'as reçu dans ton cœur. » Mais regarde ton pied. Qu'est-ce que tu y vois? Le jeune homme a regardé en bas, baissé la tête, et seulement à ce moment, il a vu un long fil très fin qui partait de sa cheville et qui le joignait à une autre personne qu'il avait connue avant. « Tu te rappelles ?» lui demande le Seigneur Jésus. « Quand tu t'es repenti, tu n'as pas dit à ton ami que tu m'avais rencontré et que tu avais désiré nettoyer ta vie. Tu as péché avec lui dans le passé. Ensemble, vous êtes allés dans des endroits pour pécher en faisant de mauvaises choses. » Après cela, tu n'es pas allé mettre les choses en ordre avec lui. Tu n'as pas coupé cette connexion de péché entre toi et lui. Encore maintenant, il te connaît comme tu étais avant. C'est pourquoi, à cause de cette connexion, le jeune homme ne pouvait pas continuer de marcher sur le chemin étroit. Et sa vie spirituelle n'avançait pas, il a dû retourner du chemin étroit. Mélanger avec le monde. Une autre image a été montrée à Lydia qui n'était pas moins triste. Un homme marchait sur le chemin étroit en portant un sac de farine. Ce n'était pas de la farine pure, mais un mélange de farine et de sucre. Soudainement, le Seigneur l'a arrêté et lui a dit, « Maintenant, sépare la farine du sucre. Dans ta vie chrétienne, tu as mélangé ceci et cela, ce que je ne tolère pas. Maintenant, sépare-le. » Voyant que cela était impossible, l'homme cria avec crainte, « Ô Seigneur, comment puis-je faire cela maintenant ?» Le Seigneur a répondu, « Pas moi, mais toi seulement as fait cela. C'est pour cela que toi, comme tu l'as mélangé, maintenant, sépare-le. » Sûrement, vous allez demander, mes amis, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que tu ne vois pas que lorsque nous appelons les enfants de Dieu et que nous mélangeons la chrétienté avec le monde, Dieu ne peut pas le tolérer. Vivre ici sur la terre, en vivant ici sur la terre, nous essayons d'une certaine façon de mélanger notre vie chrétienne avec les choses du monde. Nous ne devons pas oublier que le jour va venir où le Seigneur va revenir. Il va nous dire, comme il a dit à cet homme, « Maintenant, sépare l'un de l'autre. » Nous devrons alors admettre que nous avons commis des erreurs intolérables qui ne peuvent pas être réparées. Le besoin pour Dieu, de Dieu. Je veux continuer de partager comme il en est. Le suivant. La voix de Lydia devenait tellement faible de temps en temps que nous avions besoin de mettre notre oreille à ses lèvres pour essayer d'entendre les mots faibles et le murmure presque impercevable. À certains moments, une expression de douleur et d'effort terrible pouvait être voir sur son visage. Nous pouvions comprendre que pendant ces moments de révélation spirituelle, elle expérimentait des difficultés en montant sur le chemin étroit. « Seigneur Jésus, elle a murmuré, aide-moi maintenant, s'il te plaît, oh, ne me laisse pas. » Reste à mes côtés parce que c'est tellement difficile de continuer. La forêt sombre. Un peu plus tard, dans un moment un peu plus calme, lorsque Lydia a marché sur le chemin étroit, elle nous a dit comment elle était entrée dans une grande forêt très étroite. Elle ne pouvait pas... Quel endroit sombre et un nuage très sombre était au-dessus d'elle. Elle ne pouvait pas comprendre que tant de personnes pouvaient vivre dans une telle forêt si sombre. Étonnamment, chaque habitant de cette forêt possédait un instrument ou un objet avec lequel ils étaient très occupés. L'un tenait une radio dans ses mains, toujours en tournant le volume au maximum pour que cela fasse tellement de bruit. Un autre écoutait des cassettes. L'autre était devant une télévision complètement absorbée par ce qui était sur l'écran. Un autre jouait continuellement de la guitare. Et de cette façon, ils étaient tous absorbés avec leur propre objet ou instrument en essayant de faire le plus de bruit possible pour essayer de couvrir celui d'à côté. Chacun essayait d'attirer l'attention sur lui-même. Voyant que la fille s'était arrêtée de marcher, ils ont tous commencé à l'appeler. « Viens ici une minute !» l'un a crié. « Regarde ce qu'il y a à la télé !»« Oh, tu n'as pas besoin d'être si fanatique et si sérieuse par rapport à ces choses !»« Non !» Lydia a refusé catégoriquement. « Je suis en chemin vers la cité céleste !»« Oui, ben moi aussi !» dit l'homme qui était devant la télé. Est-ce que tu penses vraiment que nous avons des buts différents? Moi aussi, je suis en chemin vers le ciel comme toi. Viens ici et regarde ce que nous regardons. Ce sont vraiment des choses sans offense. C'est un bon film. Il y a même des choses utiles. Regarde, ne sois pas si étroite dans ta compréhension et si limitée. « Non, je ne veux pas !» Lydia refusait la tentation avec une plus grande détermination. Dans la forêt si sombre, il y avait aussi un grand nombre de jeunes personnes qui étaient habillées de façon si indécente que seulement le monde pouvait permettre. Il y avait aussi des femmes mariées dont les habits étaient si inappropriés que l'on se demandait si leur mari... Qu'est-ce que faisait leur mari pour tolérer de telles choses? Il était donc clair qu'ils en étaient de même que leurs femmes. Parmi ces soi-disant chrétiens, il y en avait qui commettaient les mêmes péchés que Lydia avait avant qu'elle soit croyante. Tous l'appelaient que ce n'était pas si grave, que même aux yeux de Dieu, ce n'était pas vraiment un péché. Beaucoup de ces voix fortes et de cette musique étourdissante faisaient tellement de bruit aux oreilles de Lydia qu'elle elle a détourné les yeux vers le ciel et elle a crié « Seigneur, aide-moi, dis-moi qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Une seule chose va t'aider. Elle a entendu sa réponse. Couvre tes oreilles avec tes mains et regarde-moi dans cet endroit sombre. En suivant le conseil, la jeune fille a soudainement vu un rayon de lumière à la distance. Et alors, avec toute sa force, elle se dirigea vers cette lumière. Elle sentait la présence et l'aide et la protection de Dieu. C'est de cette façon qu'elle est passée à travers la forêt sombre, en ne donnant aucune attention, en ne donnant plus d'attention aux gens qui étaient autour d'elle. Merci pour ceux qui ont entendu, qui ont écouté, qui ont vu. Comme le pasteur Stegen a dit au début, quand Dieu écrit une lettre, écoute. Je suis tellement troublée quand des gens disent qu'ils ne croient pas à ceci. Et quand les gens prennent cette lettre que Dieu lui-même nous a écrite pour ses enfants et qui disent « Je n'y crois pas ». Pourquoi des gens croiraient au voyage du pèlerin, mais ils ne veulent pas croire à ce témoignage? Peut-être c'est à cause du péché. Peut-être c'est parce que c'est une personne zoulou qui est passée par cette expérience et leur cœur est plein de racisme, alors ils ne peuvent pas l'accepter. Peut-être que c'est l'orgueil ou la dureté de cœur. Quand Dieu écrit une lettre, écoute. Ces jours-ci, un enfant de 12 ans a écouté. Tôt le matin, cet enfant a appelé quelqu'un. Et il a dit, « Hier soir, j'ai rêvé que je suis en route vers le ciel, vers l'enfer. » Et la raison pour laquelle je suis en route vers l'enfer, c'est ceci. Quand j'ai fait quelque chose de mal, je prie juste, « Oh Seigneur, pardonne-moi. » Je ne suis pas allée vers un enfant de Dieu pour confesser mon péché et demander le pardon. Et cet enfant a dit, « Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour mes péchés ?» Voilà mes péchés. Jeunes gens, prenez cette chance que vous avez, cette occasion. Cette lettre que Dieu a envoyée, est-ce qu'elle a, si elle a touché ton cœur, mon cœur? Que nous puissions obéir et amener à lui amener ces choses qui nous enlèvent du chemin étroit. Attrape ton téléphone, appelle quelqu'un, confesse ce péché qui t'enlève du chemin étroit. Dieu voulant, nous continuerons cette histoire, ce témoignage cet après-midi. Prions ensemble. Seigneur, tu nous as écrit une lettre. Que nous puissions la lire avec attention. Que nous puissions mesurer nos vies avec cette comparaison. Et que si nous ne nous sommes pas à la hauteur, que nous ne continuions pas juste comme ça avec notre péché ou notre erreur ou notre tiédeur. Merci pour ta grâce, pour ton amour, parce que tu as bien voulu nous parler de cette façon.